Aujourd'hui à l'Aéropod, pour ce premier épisode, on couvre les derniers événements marquants dans l'industrie, la saga Boeing avec le 737 Max et la transaction Transat Air Canada. Bonjour et bienvenue à Aéropod, le podcast des pros de l'aviation, une production de Mentor Aéro et des Ailes du Québec. Mon nom est Claudia Ouellette et j'ai avec moi aujourd'hui deux maniaques d'aéro.
Bonjour, mon nom est Grégory Blanc, je suis le membre fondateur de Mentor Aéro.
André Allard, fondateur et éditeur des Ailes du Québec.
Messieurs, on va commencer par dire qu'on veut faire un podcast hebdomadaire au sujet de l'aéro au Québec.
Oui, de l'aéro en général, de ce qui se passe. C'est pour les pros de l'aviation au Québec, mais on se limitera pas juste au Québec, parce qu'il y a bien trop de choses à raconter sur l'aéronautique. On va voir que dans les prochaines semaines, je pense que pour le restant de l'année, Boeing va nous occuper beaucoup. C'est sûr qu'on va parler des choses qui vont se faire aussi au Québec, mais on se limitera pas juste à ça.
Ouais, puis en fait, ce qu'on veut comme formule, on veut inviter les gens à s'impliquer ou à participer indirectement à l'émission. Quand ils entendent des choses, écoutez, on a des connaissances en aviation, en aérospatiale, mais on n'est pas des génies, on ne sait pas tout.
On prétend pas tout savoir, oui.
N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, nous soumettre votre information. Mais aussi, de temps en temps, si vous voulez ajouter des compléments d'information, il n'y a pas de problème. La chose, on vous demande de ne pas dévoiler le secret de votre employeur. On n'a pas besoin de ça, puis pensez à votre job aussi. De toute façon, vous êtes obligé de au secret professionnel. On ne vous demande pas de...
Ouais. L'idée, là, c'est d'avoir du fun. C'est de des fois de peut-être redresser, ramener le sujet un petit peu dans son contexte si jamais on s'égare un peu. Mais c'est ça, c'est de créer la discussion, créer le buzz, s'amuser. Fait qu'on devrait être capable de faire quelque chose d'intéressant.
Donc, deux moyens simples de nous rejoindre, la page Facebook d'Aéropod et l'adresse courriel aéropod, A-E-R-O-P-O-D, @mentoraero.com. J'en profite pour vous suggérer de nous envoyer des petits clips audio parce que ça nous permettra de pouvoir passer votre question, votre commentaire en ligne, si jamais c'est possible. Oui. Donc, vous enregistrez un petit clip audio sur votre téléphone, vous nous l'envoyez par courriel, ça va nous permettre de mettre un peu de vous dans ce podcast-là.
All right.
Premier sujet cette semaine, le Max.
Exactement, le Max. Est-ce qu'on commence par un petit historique de l'appareil?
Oui.
Ben, tout le monde connaît le Max. André, tu vas-tu partir avec ça?
L'histoire du 737 commence dans les années 60. On parle de 64, 65. Boeing décide de lancer un nouvel avion à court rayon d'action, de faible capacité, on parle d'une centaine de sièges. Puis pour éviter d'avoir des frais de développement trop élevés, il récupère le poste de, en fait, le larmant du 707, le fuselage du 727, certains éléments.
Donc beaucoup de récupération de technologie, ce qui est assez courant dans l'industrie.
Et en 67, le premier Max prend son vol. Il y avait une commande à l'époque de 25 appareils par Lufthansa pour la version une centaine de passagers.
C'était le 737-100, effectivement, qui était assez... c'était assez rudimentaire à l'époque. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été bâtis parce qu'on a switché pas très longtemps après au 200.
Qui était un petit peu allongé.
Oui.
Qui permettait de dépasser le 100 passagers. La particularité du Max...
On n'est pas rendu là.
Là, ouais, j'ai fait un petit peu. La particularité du 737, au moment où il est dessiné, c'est un avion qui est court sur pattes.
Oui.
L'objectif ici, c'est d'avoir un avion où les techniciens n'ont pas besoin de grimper dans une échelle pour faire entretien des moteurs.
Oui, puis c'est pas, la philosophie est pas mal bon pour à peu près tout sur l'avion, les moteurs en particulier, mais aussi on voulait quelque chose qui était facile à entretenir. Facile, c'est un grand mot là, pour mes chums en maintenance. Certains vont peut-être sourire ou grimacer, ça dépend. Là. Mais il a été pensé pour que ce soit, on va dire, pour l'époque, là, plus facile à maintenir.
C'est un avion qui est équipé de mécanismes hyper sustentateurs, comme on dit en bon français.
Oui.
Donc, il y a des slats, il y a des volets, il y a aussi des inverseurs de poussée.
Oui.
Et il y a une échelle intégrée. Quand tu n'as pas besoin d'aller dans un gros aéroport, de toute façon, dans les années 60, il n'y a pas de gate. Donc, il y a sa propre échelle intégrée. qui sort. Quand tu ouvres la porte, il y a une échelle qui sort en dessous. C'était la caractéristique du 100, du 200. C'était inclus.
Ça l'est encore. Le modèle 800 sur les NG possédait encore cette option-là. Donc, c'était ce qui se faisait, sa petite particularité. C'était un avion qui était pensé pour faire du point-to-point. On voulait que ce soit le pick-up ou l'éconoline, on va dire, de l'aviation. Là. Donc, c'était prévu pour qu'il puisse aller partout.
Mais les succès sont pas immédiats pour le 737. Les premières années, c'est difficile. Boeing a de la misère à en vendre. Mais Boeing travaille sur l'aérodynamique, apporte des améliorations au 737, améliore les fameux mécanismes hyper sustentateurs.
Donc, ce qu'on
appelle communément les slats en avant et les volants en arrière, c'est amélioré. Les performances sur piste d'avion s'améliorent et tout d'un coup, après la crise pétrolière de 1973, quand on compare le coût d'opération du 737 à deux moteurs versus le 727, là, il y a un choix qui s'impose pour les compagnies aériennes.
Exactement. Ça fait une très grosse différence. Un moteur de moins entretenu déjà. Puis, c'est un avion qui commence à faire ses preuves tranquillement. Donc, après la crise pétrolière, ça fait déjà 5-6 ans que l'avion vole. Fait que c'est à peu près, comme à peu près dans n'importe quel cas, n'importe quelle entrée en service. Une fois qu'on a commencé à roder l'appareil, là on commence à s'apercevoir que pour un petit Econoline, ça fait un job. Ça fait un job, très bon avion. Et donc là, on s'enligne vers quelque chose...
Oui, on commence déjà à parler de la prochaine... penser à la prochaine version.
La prochaine génération, effectivement. Ce qui est prochaine génération qui va devenir ce qu'on appelle le classique. Donc, avec une installation de moteur, des CFM56...
Mais l'installation du CFM56 demande des modifications.
Ah, voilà, ben oui, c'est là toute la particularité du 737, c'est que là, on commence déjà à ce moment-là à devoir... les ingénieurs se sont grattés la tête un petit peu, là, parce que là, il faut faire fitter, en bon français, un moteur qui est beaucoup plus gros que le JT8 qui était installé sur l'ancienne version. Donc, un moteur, le fan, beaucoup plus gros. Donc, CFM doit modifier le moteur physiquement pour être capable de le faire fitter sur l'aile, littéralement. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent le 737, ben, vous savez que la gearbox est sur le côté. Donc, ça nous a permis d'avoir si vous le regardez de face, le moteur, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle cette face un peu de hamster, là, où on a le dessous plat, puis les côtés un petit peu arrondis, là, parce que on demandait à avoir cette garde au sol.
Donc, ils ont pris tout ce qu'il y avait comme accessoire sur le CFM56 qui peut être accroché en
Exactement.
Dos, que ce soit démarreur ou les blis, n'importe quelle affaire, un leader, n'importe quoi qui est en
Surtout, c'est surtout starter, les pompes hydrauliques, les pompes à fuel, tout ça est sur le côté.
Tout ça est sur le côté pour garder, pour ne pas avoir à rallonger le train d'atterrissage, pour ne pas avoir exact. À modifier de façon substantielle le 737.
Oui.
Et évidemment, le CFM56 comporte des économies de carburant par rapport au...
Comparé au JT8, oui, c'est quand même assez important. Là.
Alors, et là, on peut dire que véritablement, les ventes du 737 prennent de l'ampleur. C'est un avion qui se vend bien, c'est un avion efficace.
Oui, puis c'est important aussi de noter que on est arrivé avec cette nouvelle génération, donc cette génération qui va devenir le classique. Mais c'est important aussi de noter qu'à ce moment-là, on commence aussi à avoir des modèles d'affaires qui détonnent un peu dans l'industrie. Oui. Faut pas oublier qu'à la fin des années 70, il y a eu la deregulation aux États-Unis, donc on a ouvert le ciel. Le gouvernement se mêle un peu moins des affaires des transporteurs. Donc, on a vu l'apparition, tout simplement, par exemple, du bon vieux Southwest, qui a donné un bon coup de pied dans toute cette... on est venu bouleverser un peu ce qui se faisait avec les majors. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que le 737 a été l'instrument pour driver ces changements. Donc, on a commencé avec des vieux 200, des vieux, pour l'époque, ils n'étaient pas si vieux que ça, là, mais on a commencé avec des 200, les classiques sont arrivés, donc là, on avait l'avion parfait pour faire ça. Donc, le 737, à travers toute son histoire, il est important de noter qu'il a aussi beaucoup contribué à bouleverser, à changer un petit peu ses façons de faire, le modèle d'affaires, tout simplement.
Oui, l'industrie change. Le modèle de point à point, le 737, ce qu'on appelle la version classique, donc du 300 au 600.
Oui, 500.
Au 300 ou 500, c'est un avion qui est extrêmement populaire auprès des transporteurs à rabais. C'est un avion continental. Il peut faire la plupart des routes continentales.
Oui, absolument.
Il est efficace, il est bon partout. Tout le monde aime le 737. Il est confortable, il est sécuritaire. C'est un avion qui est quand même développé. On est rendu au début des années 80 quand le classique arrive. Donc, on a déjà plus de 15 ans d'amélioration d'apporter sur l'appareil. Et là, vraiment, c'est vraiment l'essor du 737 de Southwest Airlines. Et là, ça continue. Arrive.
Entre-temps, il faut mentionner une petite affaire. C'est pas le but de l'émission aujourd'hui, mais il faut mentionner qu'il y a un concurrent de taille qui arrive en plein milieu, qui vient jouer les troubles-fêtes. Et c'est le Airbus 320, hein, qui a été lancé semi-officiellement, 83-84. Je dis 83-84 parce que dans les livres, souvent la date n'est pas exacte. Les Européens ont pris un petit peu de temps à se brancher là-dessus. Ils ont pris un petit peu de temps à se brancher parce que, entre autres, ils arrivaient avec quelque chose qui était relativement assez révolutionnaire. Oui. Ceux qui connaissent le 320 savent que c'est un avion qui... Il y a plus de computers dans cet avion-là qu'il y a de sièges dans l'avion. Là.
Ouais.
Donc, fait que pour aujourd'hui, le débat, c'est pas de parler du fly-by-wire, tout ça, mais on est venu jouer un petit peu les troubles-fêtes. Donc là, tranquillement, fin des années 80, Boeing commence à penser à... essayer de donner la réplique.
Oui.
Donc là, on va arriver avec le NG.
Oui, là, on est au début des années 90.
Début des années 90.
NG.
Le NG arrive, puis ça a pris un petit peu de temps à arriver sur le marché, le NG, tout simplement parce que là, on a eu besoin de faire des modifications à la structure.
Oui.
L'aile est différente, par exemple.
C'est la première itération des ailes avec le NG?
Oui, du 200 au classique, c'est la même aile. On parle de... Quand je dis que c'est la même aile, c'est structurellement parlant. Il n'y a pas de changement majeur. C'est la même surface à l'air, etc., etc. Alors qu'au niveau du NG, la surface à l'air est modifiée. On est obligé de renforcer la structure parce que là, on s'en vient avec une nouvelle itération au niveau du moteur. On s'en vient avec le CFM56, le Dash 7, qui, en comparé au Dash 3 du classique, est encore plus gros.
Pesant.
Probablement un petit peu plus pesant aussi. Donc là, ben, il faut surélever le moteur encore un petit peu plus. Et on commence à le bouger un petit peu plus vers l'avant en même temps parce que pour conserver une certaine aérodynamique.
Donc là, si on a avancé le moteur par l'avant, il faut comprendre que déjà avec le NG, on a changé le centre de gravité.
Les caractéristiques de vol.
Oui, parce que parce que quand on... N'importe quel moteur sur n'importe quel avion, quand tu appliques plein de puissance, les moteurs créent un moment, créent un torque.
Oui.
Okay? Et si tu déplaces le moteur sur l'avion, ben forcément, dans le cas du 737, on a avancé.
Oui, exactement. Le bras de levier change, puis exactement, tout à fait. Donc là, avec le NG, puis avec ce qui se passe en ce moment, là, on se rend compte que beaucoup d'experts en ingénierie disent qu'avec le NG, on avait atteint la limite. Ouais. C'était probablement et très visiblement le maximum qu'on pouvait faire avec l'avion, la structure, le airframe qu'on avait à ce moment-là. Fait que on commençait déjà à étirer la sauce un petit peu. Oui. Ça a passé, ça a fonctionné. On sait le succès que le NG a eu.
Mm-hmm.
Ce qui se dit dans l'industrie aujourd'hui, c'est que Boeing aurait dû arrêter là.
Oui, ça c'est. Mais déjà au début des années 2000. Chez Boeing, le débat a commencé, le remplacement pour remplacer le 737. C'est une discussion qui, tout au long là, de 2000, aller jusqu'à 2013, jusqu'au lancement du MAX, c'est un débat qui a cours chez Boeing. Quand est-ce qu'on lance le remplacement du 737?
Il y a des rumeurs qui courent comme quoi qu'ils auraient déjà, ils seraient déjà très avancés dans le remplacement du 737. Mm-hmm. Ils auraient dans leur boîte à carton là, tout ce qu'il faut pour un nouveau modèle. Mais là, on s'en va dans un débat où on a pris une décision d'affaires au niveau du MAX,
ouais.
qui est drivé par l'annonce de d'Airbus.
Parce qu'en fait, dans les années 2000, il y a la montée en puissance aussi d'Airbus, puis le 320, c'est aussi un excellent avion.
Oui, oui, oui. Ben là, chacun, ils ont tous leurs petits problèmes, là. Mm-hmm. Mais on s'entend pour dire que c'est une très belle machine.
Et là, il y a une compétition qui s'installe entre Airbus et Boeing. Là, c'est la course, parce que là, Airbus, eux autres, les Européens, le mandat d'Airbus à la base par les gouvernements américains, européens, pardon,
oui.
C'était de compétitionner les Américains et d'avoir un géant européen dans la fabrication.
Absolument.
Et là, Airbus réussit, connaît des succès commerciaux avec la 320. Il y a d'autres modèles qui se déplacent. Mais le succès d'Airbus met de la pression sur Boeing. On s'entend. Et plus ça avance, plus Boeing est sous pression. Et au moment où, en 2013, Airbus annonce la 320neo, oups, Boeing est prise de surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à devoir... Ils pensaient encore avoir du temps, un 5 ou 6 ans devant eux, pour pouvoir mettre au point une nouvelle version puis l'annoncer dans 5 ou 6 ans. Et là, ils se retrouvent, gros gens comme...
Ben, ils se font pogner les culottes baissées, comme on dit. Ouais. Effectivement, pensaient avoir le temps de développer leur nouveau le remplacement du 737. Là. Fait que là, la décision la plus facile à prendre, c'est d'essayer de modifier le 737 une énième fois.
Parce qu'on veut éviter une des raisons qui justifiait la décision de Boeing à l'époque, c'est de dire si on lance un nouvel avion, on en a pour 10 ans avant de vraiment arriver sur le marché en assez grand nombre, puis être capable de livrer en quantité suffisante.
Oui.
On va perdre des parts de marché pendant ce temps-là au 320neo.
Donc. Sans compter le fait que, si je ne m'abuse, un changement de modèle voudrait dire pour un client un niveau de formation extrêmement élevé et dispendieux pour les pilotes et la maintenance.
Ben, il reste que c'est sûr qu'il peut y avoir des choses qui sont communes au niveau des cockpits. On l'a vu beaucoup entre le 787, le 777, etc., etc. Les pilotes peuvent se promener d'un avion à l'autre sans qu'il y ait besoin de beaucoup trop de formation. Mais il y a quand même du simulateur et tout ça. Là, ce qu'on voulait faire avec le 737 Max, c'est de dire on coupe tout ça. Tu étais supposé être capable de passer...
Parce que Airbus avait réussi à couper tout ça.
Ah ben oui, parce que le 320 est exactement pareil. La motorisation a changé, mais après ça, à part l'amélioration de cabine, tout ça, mais au niveau de l'avion en tant que tel, il n'y a rien qui a changé. Donc, eux pouvaient dire, ben, si tu volais du 320, ils l'appellent le CEO, là, le classique, là. Si tu volais le classique, tu es capable de voler le Neo.
Parce qu'effectivement, pour le plus gros client de Boeing, qui est Southwest Airlines, ils annoncent 700. Avant le début de la crise du Max, il y en avait 750 en opération des 737. 10% de tous les 737 fabriqués sont passés dans les mains de Southwest Airlines à un moment donné ou un autre. Ça, c'est 1000. Il n'y a aucune compagnie aérienne qui s'approche de Southwest quant au nombre de 737 en opération. C'est le client qui est déterminant pour Boeing. Mm-hmm. Il changeait. L'ancien nouveau type d'avion, remplacement du 737, ça veut dire un nouveau type rating chez les pilotes et chez les mécaniciens de Southwest. C'est des coûts importants. La pression de Southwest a probablement été un facteur.
Voilà, et tant qu'à ça aurait pu pousser Southwest à considérer de peut-être aller avec Airbus, tant qu'à de toute façon être obligé de recommencer.
Absolument.
Oui, il faut prendre en compte aussi le fait qu'au moment où l'annonce du 737 Max a été faite, il y a eu une éclosion de petits opérateurs en Asie, en Afrique. Mm-hmm. Donc, Boeing aussi perdait ce potentiel-là, ces potentiels nouveaux clients-là. Donc,
si on attendait avant de lancer un nouveau modèle, en fait, là, c'était ça l'enjeu à ce
exactement,
moment-là.
Exactement, tout à fait.
Ben, écoute, là, on pourrait parler en détail du Max, mais je ne veux pas embarquer là-dedans parce que de toute façon, le Max, le MCAS, là, il a tellement été décrit dans les journaux. Je pense que tout le monde sait c'est quoi l'MCAS maintenant, comment on est arrivé à cette histoire-là. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment et pourquoi Boeing est arrivé à mettre le MCAS tel qu'on l'a connu, qui a causé deux écrasements d'avions. Parce que ça, le MCAS tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est un non-sens.
Ben, c'est un non-sens... Oui et non, ça dépend de quel côté tu te trouves. Là. On sait aujourd'hui que le MCAS, c'est, on va employer un terme peut-être un peu péjoratif, là, mais c'est une patch.
Oui.
C'est une patch. On a essayé de compenser pour quelque chose, visiblement. Puis, en fait, ce que ça met de l'avant, c'est que Si on résume vulgairement ce qui s'est passé avec Boeing, c'est une décision d'affaires. C'est pas une décision d'ingénierie, c'est pas c'est une décision d'affaires qui a drivé ces choix-là. Puis on a dit ingénierie, tu vas prendre un nouveau le moteur de CFM, puis tu vas me l'installer sur l'aile. Je suis à peu près certain que si on avait pu être présent dans les meetings, là, ça devait graffiner, puis oui, tout à fait. Parce que c'est sûr et certain que l'ingénierie savait ça. Il savait vers quoi il s'en allait. Oui. Il savait les problèmes, ce vers quoi il s'orientait. Fait que cette décision d'affaires-là a drivé cette prise de décision au niveau ingénierie. Puis ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec, je vais faire une analogie, là, qui je pense sincèrement est pas très loin, doit pas être très loin de la vérité. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Toyota.
Okay.
Pour ceux qui s'en rappellent, Toyota est devenu numéro un
mondial
fabricant de voitures. Et mais ce qui est important de se rappeler ici, c'est tous les problèmes qui sont arrivés par la suite. Ceux qui s'en rappellent, là, qui ont porté attention, il y avait eu le problème de la pédale à gaz et tout ça. C'est plein de petits problèmes comme ça qui sont arrivés par la suite. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, Toyota avait dévié de sa propre...
Ses propres valeurs corporatives. De qualité.
Exactement. Alors que Toyota rime avec qualité totale et tout ça. Là.
Ils ont tellement innové dans le domaine de la qualité. Au niveau industriel, Toyota, c'était l'exemple parfait de l'entreprise qui a misé sur la qualité.
Oui.
Qui a développé, qui a commercialisé, qui a fait du profit grâce à ça.
Oui, tout à fait. Mais là, dans le but de devenir premier... On a complètement laissé tomber ça. Complètement. OK. Non, pas complètement.
On a fait quelques compromis mal placés.
Je veux dire, coupé les coins ronds à ce niveau-là, d'un point de vue industriel, à ce niveau-là, la table est ronde.
Parle toujours de Toyota. Est-ce qu'on pense que c'est ce qui est arrivé chez Boeing également?
On pense que c'est ce qui est arrivé chez Boeing. Boeing était déjà numéro un. Fait que pourquoi ils auraient fait ça? Ben, tout simplement parce que, puis André, tu l'as mentionné, Airbus pousse très fort en arrière. Boeing a eu des gros problèmes, avec le 787.
Oui.
En ce moment, il y a eu des petits problèmes de développement avec le nouveau 777. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que, puis d'un point de vue militaire aussi, le KC 46, il y a eu beaucoup de problèmes de développement, alors que ça devait être super simple à développer. Ils prenaient un 767, puis ils mettaient deux pods, puis un boom en arrière, et voilà, c'est fait.
Ouais. Ce que je comprends de ça, c'est que, tu sais, dans le fond, on va prendre l'exemple de Toyota, ça s'applique à Boeing, c'est qu'à un moment donné, quand en tant que dirigeant d'entreprise, ton entreprise, que t'sais, quand on focus sur la sécurité et la qualité, ben, à toutes tes réunions, tu répètes ça. Okay?
Oui.
Puis quand à un moment donné, ton focus devient on veut être les premiers mondiaux, ben là, en plus, avant de parler de sécurité, ou au même moment où tu parles de sécurité, tu te mets à parler de devenir le premier mondial. Et là, tu défocalises tes gens, tes vice-présidents, tes directeurs.
Oui, bien, l'objectif, absolument.
Alors, quand en tant que dirigeant de Boeing, tu dis, nous sommes une entreprise rentable, puis à un moment donné, l'objectif de Boeing, c'était de produire un 737 max à faible coût, avec aucun coût de transition pour les compagnies aériennes. Et quand tu répètes cette phrase-là ou cette chose-là comme un mantra, même si tu n'obliges pas la personne à sacrifier la sécurité pour arriver à l'objectif d'un coût de transition faible, tu la défocalises de la sécurité. Et oui, parce que tu dis que c'est important d'avoir un coup de transition.
Ce qui était drôle, c'est que dans ce cas-là, on parle un peu d'une question de priorité. Quand tu as trop de priorité, tu n'en as plus aucune.
Oui.
Et il y a aussi la question de est-ce que toutes ces priorités-là viennent en conflit les unes avec les autres. Clairement, il y a des gens qui ont eu des conflits d'intérêts à l'intérieur de Boeing entre l'intérêt financier et l'intérêt de sécurité. Oui. Parce qu'on peut pas... Tu sais, Boeing a été on the record en disant qu'on pouvait tout faire bien. Ce qu'on constate visiblement, c'est que c'est pas le cas.
Exact.
Tout à fait, oui.
Et tu remarqueras que toute l'industrie aéronautique, tout le monde J'ai pas entendu un dirigeant d'entreprise se taper les bretelles que ça n'y arriverait pas chez eux sur ce genre de situation-là.
Oh non, c'est sûr.
Ils ont absolument raison de le faire parce qu'il n'y a aucune organisation qui est à l'abri de ce genre de déviation-là.
Absolument.
Il y a des. Et ce que je souhaite sincèrement, moi, dans cette histoire-là, c'est qu'on tire les leçons pour rétablir les garde-fous qu'on avait avant pour empêcher qu'un fabricant d'avions mette la rentabilité au-dessus de la sécurité pour éviter que ça se reproduise.
On va probablement y revenir en parlant un petit peu des liens des constructeurs avec la certification, puis dans le cas particulier de la FAA, etc., parce que c'est tout un autre dossier.
Ça pourrait être, oui, exactement, un très, très beau sujet à discuter de la certification, puis aussi le principe de délégation de pouvoir.
Mm-hmm.
Ouais. Parce que c'est en partie le problème qu'on a ici avec Boeing. Là.
Mm-hmm.
Puis on aura l'occasion d'en reparler amplement. Là, mais...
Parlant de l'occasion d'en reparler, parlons un petit peu du futur rapproché. Là. Quand est-ce qu'on entrevoit que le 737 devrait pouvoir entrer en service finalement? Je sais qu'on n'a pas de date fixe.
Ben, je pense qu'on est... je pense qu'on sera d'accord de dire pas avant l'année prochaine.
Au moment où on se parle, Boeing dit encore qu'ils vont soumettre les modifications à la fin de septembre à la FAA pour une recertification au début du quatrième trimestre de 2019. Il y a à peu près juste Boeing qui considère ça comme échéancier possible. Il n'y a plus personne dans l'industrie.
Ben écoute, je sais pas encore ce que les Européens vont décider, là, mais je pense que le plus gros du problème va venir de là. Pour Boeing, là, ça va venir des Européens.
S'ils décident de recertifier l'avion au complet.
Ah, écoute, j'ai pas de boule de cristal, mais je serais pas surpris qu'ils nous sortent un lapin comme ça, de dire soit recertifié, ouais, peut-être, ou repasser la paperasse, tout le processus. Mm-hmm. Fait que dans le fond, auditer le processus de certification en même temps qu'ils certifient le.
Mm-hmm.
Quelque chose comme ça,
ouais.
En même temps, on voit un petit peu la réaction des différents transporteurs qui ont tous des calendriers différents de remise en service pour l'instant. Fait que donc, tout le monde essaie de jouer justement au devin pour voir quand est-ce que ça va être possible. En même temps, on a vu plusieurs transporteurs annuler leur route.
Facilement
jusqu'au mois de janvier.
Un de mes très bons collègues chez Air Canada me disait qu'il prépare les avions, les 737. À partir en Arizona, là, dans le désert. Donc, ils n'ont pas
l'intention... aller stationner...
aller stationner à long terme les avions là-bas. Donc, ils n'ont visiblement pas l'intention de s'en servir prochainement.
C'est la chose à faire. Écoute, le Canada, là, on s'entend, surtout l'automne, c'est à peu près une des plus mauvaises places pour entreposer un avion. Tu as des grosses variations de température entre le jour et la nuit, avec
beaucoup d'humidité,
fortes rosées. Et là, l'humidité, si tu laisses les avions parqués 3 semaines de temps dehors sans bouger, l'humidité s'installe dans le tapis, dans les sièges, ça crée de la corrosion partout, ça crée des problèmes
c'est sûr,
partout.
Absolument, absolument. Alors, c'est dans le fond, en ce moment, les avions sont parqués, c'est du remisage à court terme, tu sais, ils runnent les moteurs tous les 7 jours, mais là, on parle de vraiment de storage à long terme.
Mais là, ça va peut-être avoir l'air d'une question niaiseuse, là, mais pour les amener en Arizona... Faut les faire voler, ces avions-là?
Oui, ils vont voler avec un special permit ou un ferry flight. Il va y avoir les
et
deux pilotes
de test. Pilotes de test? Je dis, quel genre de personne va...
Non, ça va être des pilotes d'Air Canada, mais qui sont prêts. Là. Là, ils ne seront pas en uniforme, là, puis ils vont être à la hache à côté, probablement.
Le couteau entre les dents.
La machette. Là, puis,
ils ont refait... En fait, la semaine passée ou la semaine d'avant, Air Canada a fait voler des 737 MAX avec l'autorisation de Transport Canada. Il y avait des gens de Transport Canada à l'intérieur des avions. Parce qu'au niveau réglementaire, les pilotes vérificateurs agréés, les PVA qu'on appelle, dans notre jargon, c'est les check ride pilots.
Oui.
Parce que ça prend un pilote pour vérifier les pilotes. Donc les pilotes vérificateurs, eux, doivent avoir offert au moins trois atterrissages au cours des 6 derniers mois avant de pouvoir eux-mêmes vérifier les. Là, à la fin du mois d'août, on arrivait à la limite du 6 mois. Donc, ils risquaient de se retrouver dans une situation où les pilotes sont plus autorisés à vérifier les pilotes qui volent. Puis, pour que ça soit, c'est pas 3 vols en simulateur, c'est 3 vols réels. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des équipages, ils ont fait voler. Ils ont fait beaucoup de Montréal, Val-d'Or, Timmins en Ontario, Val-d'Or, Montréal. Ils ont fait des trajets courts comme ça de 35-45 minutes et ils ont revérifié tout le monde. Tout le monde a été Ils ont un nombre suffisant de pilotes vérificateurs maintenant pour relancer le processus. Parce qu'Air Canada est dans une situation particulière. Elle n'a pas de 737 NG dans sa flotte. Donc, les pilotes ne peuvent pas continuer à garder le type rating, les certifications de type sur le 737.
Ouais.
Intéressant.
Alors, ces pilotes-là vont faire le transfert maintenant en Arizona. Et soit je sais qu'ils ont fait un training spécial sur le MCAS. Comment régler les problèmes du MCAS?
Ah, tu identifies le breaker, tu y mets un gros collet. Là, puis,
On a parlé un petit peu rapidement de des cas particuliers pour certains transporteurs. Est-ce que ça risque de refroidir à moyen terme les transporteurs de choisir Boeing avec ce modèle-là ou un autre?
Moi, je pense qu'on va avoir les deux extrêmes. Ouais. Honnêtement, là. T'as ceux qui vont le laisser tomber complètement, comme là, on a vu cet été.
Oui.
Les Chinois là, qui ont annoncé qui voulaient plus en avoir, puis tu vas avoir l'autre extrême, tu as quelqu'un qui va essayer d'avoir un deal.
Ouais, comme chez IAG, c'est qui est International Airline Group, donc qui est la compagnie mère de
British Airways.
Eux, ils ont signé une lettre d'entente avec 200 masses,
mm-hmm.
mais ça reste une lettre d'entente. C'est un protocole d'entente, c'est pas. Il n'y a rien de définitif là-dedans. Donc,
les Anglais, là, sérieux.
En même temps, un peu comme la foudre, on s'entend que probablement que la compagnie la plus sécuritaire dans les prochains mois, ça va être Boeing. Au niveau de la construction.
Ben, ils sont tellement watchés là, que je veux dire, ça se peut pas. Là, c'est. Ils ont eu des problèmes de FOD sur le KC-46. Ça va pas bien avec le 777.
Quand j'étais 12-13 ans, là, pour moi, Boeing, c'était le king du ciel. T'avais le 707, le 727, le 737, écoute, le 747, écoute, quand t'as 13 ans, t'as l'aviation de 747.
La queen of the sky.
Oui. C'était les meilleurs. Pour moi, le McDonnell Douglas, le Lockheed, puis il y avait la Caravelle qu'on voyait un peu aussi en France. C'était pas des avions, ça. Un avion, pour moi, quand j'étais jeune, c'était Boeing. Et de voir à quel point ils ont des problèmes de qualité, c'est pas le Boeing que j'ai connu, ça.
Jusqu'à quel point on parle d'une question de culture d'entreprise qui dépend du dernier dirigeant, qui avait d'ailleurs été nommé Man of the Year par Aviation Week l'an dernier?
Ouais,
je sais pas, là, d'après moi, il renouvellera pas cette année son mandat de Man of the Year. Mais c'est sûr que ça part. C'est certain que on refera pas un débat là, sur le management et tout ça, mais c'est sûr que t'es le bon vieux cliché, ça part d'en haut, ça part des dirigeants, ça c'est indéniable. Si les boss mettent l'emphase sur faire sortir l'avion plus que dire ok c'est cool, on va prendre une heure de plus puis on va nettoyer, on va je veux dire, c'est... Je suis à peu près certain que les gars sur le plancher sont assez consciencieux. Je connais du monde qui travaille en manufacturing. C'est des gars qui ils savent ce qu'ils font, ils savent comment le faire. Mais à un moment donné, si on ne te donne pas les outils pour le faire, at large, là, si on ne te donne pas les outils pour le faire, ben...
Je vais te donner un exemple. Cet été, Marc Parent donnait, après l'Assemblée générale annuelle de CAE, le président de CAE, Marc Parent, donnait... des journalistes, puis à un moment donné, il expliquait lui, qu'à chaque réunion qu'il a avec des gens de CAE, il rappelle les règles d'éthique, la question de service sécurité au travail. Il remet toujours l'emphase là-dessus, de sorte que tu as une entreprise qui se fait répéter par le patron, qui eux finissent par, les vice-présidents finissent par reprendre le message du patron, c'est-à-dire les règles d'éthique, la santé sécurité au travail, c'est important pour nous. Donc, tu as une entreprise, ça fait. Et c'est pour ça qu'on les paye si cher, les présidents d'entreprise, les chefs d'entreprise, c'est pour être capable de mettre en place sur les bonnes choses, garder le
cadre. Absolument.
On aura certainement l'occasion d'en reparler, messieurs, parce que j'ai pas l'impression que cette saga-là va se finir bientôt. En attendant, bien entendu, chers auditeurs, si vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez surtout pas pour nous les faire parvenir. On prend une petite pause rapide, on vous revient tout de suite.
Mentor Aero offre différents cours en ligne à travers son académie. Vous êtes un directeur de maintenance, contracteur ou technicien? Nos formations réglementaires et techniques sont flexibles, faciles à suivre et parfaites pour les pros on the go. Visitez notre site web pour plus de détails, mentoraero.com.
On est de retour pour parler de la transaction Transat Air Canada. Ça commence maintenant...
Sujet chaud de l'été.
Oui, oui.
Écoute, au moment où on se parle, on sait que la transaction est complétée, les actionnaires ont voté en faveur, le tribunal a accepté, accepté la transaction. Maintenant, on s'en va dans le niveau réglementaire. Ça va prendre l'approbation du bureau de la concurrence.
Oui, bon, on se doute qu'à ce niveau-là, Air Canada va devoir probablement lâcher des routes puis des gates.
Oui, des gates à Montréal et à Toronto parce qu'ils sont tellement dominants. Et il va y avoir aussi une audience du ministère des Transports qui va se tenir. Ils ont sagement retardé l'audience de plusieurs mois. Comme ça, le sujet n'apparaît pas pendant la campagne électorale. Il n'apparaîtra pas pendant la campagne électorale qui va débuter bientôt. Mais j'ai lu beaucoup de choses sur cette transaction-là, beaucoup d'analyses, et moi, ça me fait un peu sourire parce que aussitôt qu'il y a un changement, on sort tout de suite les pires aspects. Dans ce cas-ci, on nous annonce que ça va être une catastrophe au niveau du prix des billets. T'sais, dans le fond, le prix des billets va augmenter et que les passagers vont être les grands perdants de ça. Okay? Ce à quoi je n'adhère pas.
Mais au niveau du prix du billet, André, moi, je pense qu'il va, il va augmenter un petit peu. Parce qu'oublie pas une chose, là, il y a probablement juste des maniaques comme toi et moi qui savent ça, là, mais, et les certains économistes. Là. Mais le prix du billet ces 20 dernières années, il n'a pas beaucoup, beaucoup augmenté, voire même en dollars constants, il semblerait même qu'il ait diminué un petit peu.
En dollars constants, écoute, il a diminué le prix du billet. Il faut comprendre que l'aviation aujourd'hui, ce n'est plus... Le transport aérien, la compétition entre les compagnies aériennes, elle est plus régionale, elle est plus nationale, elle est internationale. Moi, quand je regarde le profil de développement d'Air Canada des 5 dernières années,
oui.
Ils l'ont bâti sur la 6e liberté de l'air, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des passagers aux États-Unis, ils amènent dans un des 3 gros aéroports canadiens, c'est-à-dire Vancouver, Toronto et Montréal.
Mm-hmm.
Et de là, ils vont les porter en Europe quand c'est à Toronto et Montréal, et en Asie quand c'est à
Vancouver.
Et ça, là, Air Canada n'est pas en compétition avec WestJet là-dessus. Elle est en compétition avec Delta Airlines, c'est American Airlines. Elle n'est pas en compétition avec United, parce que United est membre du réseau Star Alliance avec Air Canada.
Ouais.
Mais ça a été ça, la stratégie de développement d'Air Canada et la clientèle à faire. On s'entend, Air Canada, et c'est une championne reconnue mondialement pour le service à la clientèle à faire. Elle est dans les 5 meilleurs en ce moment.
Oui, oui.
C'est une excellente compagnie au niveau du service à la clientèle à faire. L'arrivée d'Air Transat, bon, les gens qui me disent que ça va faire monter le prix des billets en région, là, je regrette, mais Air Transat ne fait pas de vols régionaux. J'ai jamais vu de Montréal-Sept-Îles avec Air Transat ou Montréal-Gaspésie avec Air Transat.
Ça serait cool en 330, pardon.
Ça serait super le fun.
Ouais.
Je suis sûr que des gens des îles aimeraient ça avoir débarqué des touristes à la tonne.
Oui.
Mais ça se fait pas. Donc, le fait que Air Transat se retrouve sur la gouverne d'Air Canada, il n'y a pas de changement au niveau de l'offre régionale. Ce que ça va avantager, par exemple, pour Air Transat, c'est qu'en ce moment, si tu es à cette île, puis tu veux aller à Paris, puis tu veux prendre un billet tout le long, avec Transat, tu n'es pas capable. Tu es obligé de te trouver un autre transporteur entre Sept-Îles et Montréal.
Exact.
Et là, tu payes le gros prix. Si tu vas avec Air Canada, Sept-Îles-Montréal, tu payes le gros prix pour après ça aller chausser avec Transat. Ce que tu ne feras pas, c'est que tu vas rester avec Air Canada. Parce que si tu prends un billet au départ de Sept-Îles pour aller à Paris, curieusement, à Sept-Îles, si tu fais la loupe complète, ton billet te coûte 100-150 $ de plus que juste le billet aller-retour Montréal-Paris avec Air Canada.
Ouais.
Là, tu vas avoir l'option de faire Montréal, Sept-Îles avec Air Canada, puis de finir avec Transat, qui est moins cher. Donc, ça va, d'après moi, à ce niveau-là, il va y avoir une structure de coûts intéressante.
Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'intégration de Transat chez Air Canada. Moi, j'avais ma petite théorie par rapport à ça.
Mais si vous voulez, on va faire ça un petit peu systématiquement. Passer le point de vue des différents acteurs dans cette situation-là. Donc là, on vient de parler des passagers. Les côtés positifs, c'est le réseau élargi. Les tarifs, on n'est pas sûr si ça va être positif ou négatif.
Ben, les tarifs, clairement, il y a la question que de
tous les segments qui étaient couverts jusqu'à maintenant par Air Transat vont devenir sujets à Aéroplan.
Oui.
Oui, c'est vrai, c'est un bon point, effectivement.
Ouais, moi, j'ai assez, parce que moi, je voyage avec les deux. Moi, j'aimerais ça pouvoir utiliser accumuler des Aéroplans avec Air Transat aussi. Ça serait
Extraordinaire. J'ai l'impression que c'est ce qui s'en vient. De ce que j'ai compris, là, c'est ça qui est dans les livres. Tout.
Oui, ben, il serait fou de pas le faire.
Effectivement, ça risque d'ajouter un petit peu de la complexité, mais quand même. L'autre côté négatif potentiel, c'est la langue.
Là, je vois à moi que Air Canada va devoir faire ses preuves, OK? Parce que quand tu regardes Air Canada et Air Transat, ce sont deux images fortes. Air Canada, c'est une compagnie canadienne, c'est la feuille des rames. Ils ont développé cette identité-là qui leur est propre. Ils ont leur propre teinte. Et c'est correct, c'est une compagnie canadienne. Transat, c'est une compagnie francophone, compagnie québécoise. Écoute, même Air France n'est pas aussi francophone qu'Air Transat. Je regrette, là. Il n'y a pas de compagnie plus francophone au monde qu'Air Transat en ce moment au niveau transport aérien. Puis l'avantage, moi, ce que j'aime d'Air Transat, que tu sois à Paris, à Londres ou à Rome, quand tu embarques dans un avion d'Air Transat, tu es revenu à la maison, tu es au Québec dans l'avion. Tu le sais, tu ne te casses pas la tête parce que les gens parlent français. Non, ils parlent tout français, les pilotes aussi, tout, tu vas avoir tout, tu vas te servir en français, tu vas avoir ton service habituel, tu le vas dire.
Non, c'est vrai, bon point.
Et le défi pour Air Canada, ça va être de préserver ça. Puis c'est une marque de commerce forte aussi, Transat, parce que 37% de ses passagers transatlantiques, c'est des Européens. Ça veut dire que c'est des gens de Paris, des Français qui choisissent non pas de voyager avec Air Canada, non pas avec Air France, mais avec Air Transat.
Ni même avec Corsair.
Même avec Corsair, par raison. Puis Level aussi, on pourrait inclure Level aussi. Mais ils ont choisi Air Transat. Donc, ouais. C'est 37%, c'est pas banal là, sur un 3-30.
Non, effectivement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Puis, en fait, c'est ce qui nous fait penser que Air Canada va préserver la marque.
Oui.
À ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait de risque.
Au niveau du brand comme tel, mais ils ont mauvaise réputation pour la langue. Ils viennent d'être condamnés.
Sincèrement, j'ai rien à dire là-dessus. Puis, à la limite, même je te dirais, parle-moi pas là-dessus, parce que les quelques expériences que j'ai eues avec Air Canada, tu switches français, franglais, là, ils essayent de faire un effort pour te répondre en français. Finalement, tu essayes de te faire comprendre, tu sais, beau, continue en anglais. Fait que non, effectivement, c'est pas... c'est cocasse, on va dire. Là, on se fâchera pas. Là,
c'est... Moi, je te disais que le danger pour Air Canada maintenant, c'est qu'ils vont dire, OK, c'est correct. Maintenant, on a Air Transat qui est francophone. On laisse Transat francophone, puis on va lâcher le français sur Air Canada. Comprends-tu? En disant, ben oui, mais gars, on a un transporteur francophone. Pourquoi vous nous demandez d'être bilingue sur Air Canada?
Ce qui nous confinerait à une classe, et etc.
Ils
n'auront
pas
mais
le choix, de toute façon. Là, mais c'est sûr qu'ils n'auront pas le choix d'avoir un service en anglais-français, mais c'est sûr que c'est l'effort sera peut-être un peu moins là.
Du côté de Canada, puis peut-être qu'on va dire, ben, j'espère qu'on a fait ça. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, c'est ça. Pour les passagers, regarde.
Pour les passagers, ça ressemble à ça. Pour les employés, de quoi ça a l'air un côté positif?
Je pense pas que, positivement parlant, je pense pas qu'il va y avoir de changement. Ils ont vraiment pas de crainte à avoir.
Ça leur amène de la sécurité d'emploi?
Ben oui, d'une certaine façon, parce que tu vas... j'imagine que... C'est plus au niveau upper management. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'Air Canada...
Il risque d'y avoir de la rationalisation.
Exactement, oui. Mais parce qu'après ça, au niveau du... au niveau des opérations... c'est sûr qu'il commence à y avoir un manque de main-d'œuvre, etc. Mais ils ont. Les gens chez Air Transat sont très bien formés, ont une belle expérience. C'est une très très belle équipe, les gens au niveau des opérations là, chez Air Transat. Donc, honnêtement, il va peut-être y avoir un peu de rationalisation, mais beaucoup plus haut dans le management. Là. Peut-être, à la limite, peut-être descendre un peu jusqu'à des directeurs. Là. Mais plus bas que ça, ça me surprendrait beaucoup. Parce qu'Air Canada serait vraiment niaiseux de se passer, de se priver de cette expertise-là.
Et je suis d'accord. De toute façon, Air Canada, en ce moment, recrute, par exemple, au niveau des techniciens d'entretien, ils en recrutent.
Ouais.
Alors, je vois pas pourquoi ils mettraient à pied des gens d'Air Transat, puis après ça, dire, ben, on ne peut rien savoir. Puis de toute façon, l'entretien d'Air Transat et d'Air Canada, au niveau des avions, c'est du copier-coller d'un à l'autre. C'est-à-dire que les deux font juste des hot checks, du line maintenance.
Pas juste des hot checks, mais c'est du line maintenance. Le heavy se fait à l'extérieur du pays
pour les gros porteurs.
Là. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Fait que ce que ça peut faire, ce que ça peut amener, c'est un pouvoir de négociation beaucoup encore plus fort de la part d'Air Canada.
Oui.
Parce que là, tu as, c'est quoi, c'est une dizaine de 330, quinzaine, on est rendu là? Quinzaine de 330 de plus à faire entretenir. Il y a les 321 qui s'en viennent. Donc là, on...
Donc au niveau des opérations, on parlerait d'un overlap des flottes qui devrait donner un coup de main des deux côtés.
Oui, absolument.
Ben, d'un point de vue gestion, parce qu'il n'y aura pas d'overlap au niveau opération.
Non, on se comprend.
Mais on s'entend qu'au niveau du siège social d'Air Transat,
mm-hmm.
là, c'est au siège social que ça risque le plus de faire mal pour Air Transat.
Peut-être à long terme. À court terme, je ne pense pas qu'il fasse de gros changements, mais...
Moi, ce qu'on m'a dit, okay, ce que je sais de cette transaction-là, c'est qu'Air Canada tenait absolument à avoir Air Transat à l'acheter. Okay? Et on dit souvent, c'est drôle, hein, Air Canada a commencé à négocier véritablement en janvier avec Air Transat, puis en avril, on apprend que Onex veut acheter WestJet. Puis ce genre de négociation-là ne se passe pas en 2-3 jours, mais bien en...
Moi, j'ai entendu des rumeurs même que ça aurait commencé avant janvier.
Ah. Est-ce que Air Canada a eu vent de cette transaction-là et a dit « Oh, tu mettras pas là ». Connaissant le passé entre Onex et Air Canada, est-ce qu'Air Canada n'a pas dit « Tu mettras pas la main sur Transat ». Air Canada a décidé de mettre la main sur Transat en fait,
ouais.
À tout prix. Et c'est pour ça que l'offre est passée de 13$ à 18$ dans le temps de le dire, sans aucune hésitation.
Ça nous appelle à parler, ça nous amène, pardon, à parler un petit peu du point de vue des actionnaires. Parce que sans cette compétition-là de dernière minute au niveau du prix de l'action, Transat aurait été vendu à 13$ de la part. Là.
L'action, oui.
Oui. Ben, au niveau des actionnaires, le bon coup, là, si on reste à notre lancée de bons et mauvais coups, là, pour les actionnaires, un bon coup, c'est le prix de l'action.
Absolument.
À 18$, il aurait été fou de dire non.
Les actionnaires de Transat.
De Transat, ah,
parce que oui.
Oui, parce que du côté d'Air Canada, je suis pas sûr.
Ben, curieusement, l'Edco Brosseau qui était...
Ça a l'air assez positif, le point de vue, quand même. Là.
L'Edco Brosseau qui était le plus gros actionnaire de Transat, est aussi le plus gros actionnaire d'Air Canada. Donc, eux, ils ont voté en faveur de... Et à la fin de l'Assemblée générale spéciale de Transat, où les actionnaires ont voté en faveur, les gens se sont levés debout pour donner l'innovation à monsieur Eustache.
Mm-hmm.
Alors, visiblement, eux autres, ils ont vu la transaction d'une façon très positive.
Ben, dans ce cas-là, l'argent est passé de la poche gauche à la poche droite, là. On s'entend.
Dans le cas d'Edco Brosseau, oui, mais c'est pas tellement ça comme... Faut pas oublier que Transat, là, il y avait beaucoup de petits épargnants. Okay? C'était pas juste un ou deux ou trois gros actionnaires institutionnels. Il y avait beaucoup de petits épargnants qui, eux, ont fait un bon profit sur cette action-là. Puis tant mieux s'il y a plein de petits épargnants au Québec qui ont fait un bon profit, qui ont fait 2, 3, 4 000, 5 000, 10 000 $ de profit avec Transat.
Absolument.
Tant mieux pour eux autres.
Oh,
absolument.
Absolument.
Donc, du côté des actionnaires de Transat, la prime a été très intéressante. Du côté de Air Canada, est-ce qu'on considère que les actifs qui viennent avec la transaction sont intéressants?
Oui. Oui, oh, oui. D'un point de vue technique... C'est rapidement le 330, c'est un avion que Air Canada affectionne beaucoup.
Mm-hmm.
D'ailleurs, ils sont à la recherche de d'autres appareils. Ouais. Parce qu'ils ont Air Canada a certains des plus vieux dans la flotte, là, des 330. Donc mais c'est quand même, ça reste un avion qu'ils affectionnent beaucoup. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Au niveau du 321, ils en ont déjà opéré, fait que ça c'est pas un problème. Ils avaient déjà opéré les anciens d'Air France à l'époque, donc ça c'est pas vraiment un problème. La seule question qui pourrait peut-être se poser, c'est pourquoi qu'ils ont été chercher les moteurs Pratt. Pour nous, c'est le fun parce que les moteurs sont fabriqués, non pas ceux-là, eux autres sont fabriqués en Floride, mais bon, il reste que c'est Pratt quand même. Oui. On se pose la question de pourquoi ils ont pas été avec du CFM.
Mm-hmm.
Du point de vue de Transat, puis Air Canada doit se le demander aussi.
Qui aurait homogénéisé la flotte de ce côté-là.
Exactement, oui, tout à fait.
Mais
pour le reste, c'est quelque chose qui, c'est des appareils qu'ils affectionnent beaucoup. Je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là.
Il y a pas loin de 700 millions de liquidités dans les coffres de Transat. Mais comme expliquait Jean-Marc Eustache, il y en a à peu près 400 qui sont libres, vraiment.
Mm-hmm.
Il y a à peu près 300 millions de liquidités. Dans le fond, c'est les dépôts, des voyages payés d'avance, puis tout ça, tu peux pas réutiliser.
Mm-hmm.
Air Canada, là, une fois que la transaction est complétée, elle va ramasser, en gros, 400 millions de cash.
Il reste que Transat est en perte au moment de... Enfin, depuis le début de l'année, là.
En fait, dans les 5 dernières années, Transat n'a à peu près pas fait de profit.
Mm-hmm.
C'est neutre. Et ça, c'était ce qu'avait expliqué M. Eustache, c'est que le fait de ne pas avoir fait de profit dans les 2 dernières années, ça retardait le programme de développement du réseau hôtelier. Il y avait moins de liquidités que prévu pour développer le réseau hôtelier, donc ça risquait de les retarder. Et avec la récession qui s'en venait, qui va venir, il commençait à être inquiet pour l'entreprise. Ça aussi, ça a joué dans... C'est un facteur déterminant dans la décision pour des gens comme M. Eustache. De décider, oui, OK, c'est correct, on va vendre.
Mm-hmm.
On accepte l'offre d'Air Canada, on négocie avec eux de bonne foi, puis on va vendre. Et ça, ça ajoute
beaucoup. Oui, oui, donc c'est sûr que ça n'a pas...
Tu parlais, André, du développement des hôtels. Pour Air Canada, est-ce que l'expérience de tour opérateur de Transat, c'est particulièrement positif?
Je pense pas qu'ils vont continuer avec les hôtels.
Ouais.
Ça, c'est vraiment pas dans le core business d'Air Canada. Mais tout ce qui est tour operator puis les charters, tout ça là, ça va devenir la tasse de thé de continuer à être la tasse de thé d'Air Transat. Moi, la théorie que j'avais par rapport à ça, mais je pense pas que ça va se passer exactement comme ça, ça serait trop beau. Moi, je pensais que Transat pourrait ramasser tout ce qui est vacances, voyages, ouais. d'Air Canada, tout ça, mais encore là, je pense pas que tout va passer chez Air Transat. Là. Moi, je pense qu'Air Canada, ce qui est plus probable, c'est qu'ils vont aider Air Transat à continuer à développer le réseau de charter puis de voyagistes à pur et dur. Là.
Ouais.
Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a Rouge aussi là-dedans. Hein?
Oui.
Donc, on a Air Canada. Là, on est rendu avec Air Transat qui serait le middleman. Là. Puis, on a Air Canada Rouge. Qui est en bas, qui est un low cost, mais non, parce qu'Air Canada ne veut pas qu'on dise que c'est un low cost, mais c'est un low cost.
Oui, oui. Ben, d'ailleurs, souvent, quand on parle d'un low cost, pour définir un low cost, souvent, on dit un low cost, c'est une structure de coût de 30% inférieure à un transporteur traditionnel. Ça, c'est une caractéristique des low cost. Puis, curieusement, Rouge, ça coûte 29% moins cher que de faire voler le même avion qu'avec Air Canada.
Et pourquoi on résiste comme ça à appeler ça un low cost du côté d'Air Canada?
Probablement à cause du côté un peu négatif du low cost, beau bon pas cher. Tu regardes ce qui se passe avec Ryanair ces derniers mois. Des grèves, des pilotes qui se présentent pas, il y a des no-shows. Il y a un petit côté un peu... Tu sais, pour Air Canada, qui est très glamour...
Personne ne veut être le Walmart de l'aviation.
Ouais, oui, mais finalement, ils ont fini par le faire pareil, parce que tu regardes, les avions de Rouge sont tout le temps pleins. Moi, je l'ai pris pour aller à Las Vegas.
Tout le monde
s'en plaint. Oh, oui, t'es tassé. Là. Je veux dire, honnêtement, là, entre toi et un poulet, il n'y a pas une grosse différence là-dedans. Là.
Mais
ça marche.
Ça marche. Il y a un marché pour ça. Il faut comprendre. Toi puis moi, Grégory, on est des avgés. Quand on prend l'avion, on n'est pas juste content d'aller quelque part, on est content de prendre l'avion.
Ouais.
Puis on veut que notre expérience en avion soit agréable.
Mm-hmm.
Ça fait partie, pour nous autres, ça fait partie du deal. Mais pour la personne qui est au salaire minimum, puis qui renverse son laptop de temps en temps.
Oui.
Pardon, la technologie.
Le prix du billet, c'est important. Puis eux autres, l'expérience en avion, ils s'en tapent. Ça va durer 4 heures.
C'est t'amener du point A au point B, c'est tout.
Voilà. Exactement. Mm-hmm. Fait que tu vas aller à Vegas dépenser ton argent au casino, puis pas dans l'avion.
Pas dans l'avion, exactement. Fait que eux autres, ils aiment ça. Ils s'en foutent. Puis ils les remplissent à cause de ça, Air Canada, les avions.
Ah oui, oui, absolument.
Et rapidement, si on rappelle du côté des opérations, on a déjà parlé que Air Canada connaissait bien le 330. Est-ce qu'il y a des actifs de Transat qui pourraient donner un coup de main par rapport au problème avec le 737?
Transat opérait des 37 NG.
Ouais.
Puis je sais pas si officiellement il leur en reste encore quelques-uns. Ben, j'imagine que oui, là, le temps que les 320 et 321 arrivent dans la flotte. Là.
Ben,
mais je pense pas. Le plan, c'était pas de les garder. Donc, je pense pas que ça fera ça.
Quelques-uns en location. Je pense qu'ils en ont seulement, ils en avaient 5 ou 6 des NG. Oui. En tout cas, en location permanente dans le plan. Et ils ont des ententes avec Thomas Cook.
Ils vont, on sait pas, en fait. C'est que c'est les, ça, c'est les wet lease, c'est les systèmes de wet lease, puis tout ça. Fait que, ils avaient des ententes avec Tui, le groupe Tui. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Mais dernièrement, dans la dernière année, je pense que c'était plus avec Thomas Cook, puis tout ça, là.
Oui.
Mais dans le passé, c'était, il me semble que c'était le groupe Tui.
C'est, c'était en 2017. C'était à l'automne 2017 qu'ils ont annoncé l'entente avec Thomas Cook. Et l'entente permettait justement de récupérer des 320, des 321 d'hiver de Thomas Cook, de les amener ici. Puis l'hiver, Transat envoie un 737 à Thomas Cook.
Okay.
Parce que Thomas Cook, l'hiver, eux autres, bon, les destinations soleil à partir de l'Europe, c'est, ça prend du 330, c'est du long courrier.
Oui, c'est ça. Fait que j'imagine qu'Air Canada va garder la même structure.
Mm-hmm.
Si on regarde, admettons, du côté d'Air Canada, là, j'imagine qu'eux autres vont garder la même structure. Ils vont honorer les mêmes contrats avec Thomas Cook et... Fait que, puis je dis le groupe Tui parce qu'il me semble que c'était avec eux autres qui travaillaient. Puis nous autres, c'est avec eux qu'on travaillait quand j'étais avec Canjet, où on recevait les avions jaunes, peinturés jaunes avec le sourire sur la queue. Là.
Ouais.
Ça en est un autre, ça aussi, qui envoyait des avions des 37 ici. Puis fait que ouais, je pense que c'est eux qui avaient le contrat avant. Puis là, ben, fait que à ce niveau-là, je pense pas que ça va changer à court terme. Là. Ils vont au moins faire la saison, ben, j'imagine. Là.
Dans la stratégie de Transat, l'acquisition des 321 LR
oui.
permettait de faire du nord-sud l'hiver.
Oui.
Puis du transatlantique l'été. Ça éliminait les besoins saisonniers, les variations saisonnières. Et c'était l'objectif. À partir de 2023, Air Transat n'avait plus d'entente temporaire avec Thomas Cook. Les 321 font du nord-sud l'hiver, puis du transatlantique l'été. Tu n'as plus besoin de changer, de refaire la composition de ta flotte d'avions entre les deux saisons. C'est ça l'objectif de
Ouais.
C'est probablement maintenu, mais je pense qu'Air Canada a des yeux sur les performances du 321 LR. Parce que. Ils doivent remplacer les plus vieux 777. Le 330 est un peu gros par rapport au 777.
Oui.
Le 321 LR est un peu petit. Fait est-ce que tu es capable avec des 330 puis des 321 LR à boucher le trou des
777? Là, il y a le XLR qui s'en vient.
Oui, 500 000
nautiques. Fait que donc ça va être ça va probablement ça qu'ils vont garder, là, qu'ils vont regarder du coin de l'œil, là, en tout cas.
Petite parenthèse en passant, le président de Moxie Airlines, qui est aussi actionnaire de gestionnaire sur Iberia, dit que un 321, c'est coût d'opération par siège par mille, le fameux CASM,
ouais.
15% inférieur par rapport au 330. Du transatlantique en 321, on va en avoir. Fait que ça, c'est une parenthèse. Et moi, pour revenir à Air Canada et Air Transat, ce que je vois dans le futur, le développement, c'est que Air Canada va demeurer la marque qu'elle est maintenant, puis elle va probablement transférer une partie de sa clientèle voyage vers Transat.
Mais pas toute.
Pas toute, mais parce qu'il faut quand même remplir l'avion. Tu ne peux pas remplir l'avion en économie supérieure et en classe affaires.
Ouais.
Mais les sièges libérés, l'espace libéré dans l'avion va être transformé en économie supérieure ou en classe affaires. Donc, plus de classe affaires dans l'avion, donc plus de revenus par vol pour Air Canada. Air Canada, Transat devient le voyagiste, c'est sa force, puis Rouge devient effectivement le transporteur à rabais. Puis regarde bien dans les années à venir, la compétition Swoop, Air Canada. Air Canada va aller partout où Swoop va aller, la filiale à bas prix de WestJet. Et le truc, ça va être ça. Ça va être du bas
prix. Air Canada Rouge.
Air Canada Rouge va faire la compétition à.
Oui, mais ça, c'est annoncé, gros. Ouais. C'est un secret de polichinelle, là.
Donc, dans le fond, en résumé par rapport à cette transaction-là, si je comprends bien votre point de vue, ce qu'on pense, c'est que dans les circonstances où il y a de la consolidation dans l'industrie, c'est la meilleure transaction qui était possible.
Moi, je pense que oui, honnêtement. C'est sûr que c'est un peu crève-cœur parce que c'était le dernier, un des derniers, là, avec certains autres transporteurs en Europe et tout ça. Mais tu sais, c'était le dernier gros francophone, celui qui résiste à l'envahisseur. Ça sonnait un peu comme ça, Air Transat. Là. Oui. C'est celui qui devait pas
c'était
être là,
Gaulois.
Mais qui était... Ouais, un petit peu. Il aurait pas dû exister, mais il était toujours là, fidèle au poste. Puis, fait que c'était un peu crève-cœur, mais je pense que, malheureusement, c'était la meilleure chose pour eux.
Ouais. Moi aussi, je suis d'accord là-dessus. J'espère que je vais avoir des aéroplans avec Air Transat.
Ça, c'est sympa.
À suivre, tu nous tiendras au courant, André. Parlant de nous tenir au courant, est-ce qu'on a des rumeurs intéressantes cette semaine?
Oui, Mitsubishi s'en vient à Montréal apparemment. Okay. Ils sont supposés faire une annonce la semaine prochaine. Je vais m'arranger pour aller voir ça, puis regarder de quoi ça a l'air. On pourra en parler à ce moment-là, à la prochaine émission.
Excellent. À suivre de ce côté-là. C'était tout pour aujourd'hui, pour cet épisode, ce premier épisode d'Aéropod. Merci de nous avoir écoutés. Visitez nos sites web à mentoraero.com et lesailesduquebec.com. Abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée. Si vous aimez l'émission, parlez-en à vos amis. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit au début, nous envoyer vos commentaires ou vos questions à l'adresse aeropod@mentoraero.com. De retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
C'était Grégory, et on se voit la semaine prochaine.
Salut, Greg.
Salut, là.